Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. N'aimeriez-vous pas comprendre les prophéties, les événements à venir, sans oublier le message positif et encourageant que le Christ et ses apôtres ont révélé à leur époque? Ce message, qui est toujours d'actualité de nos jours, est la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ce royaume que le Christ viendra bientôt implanter sur terre. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du livre qui est le plus vendu et néanmoins le plus incompris au monde, car chacun veut y trouver ce qui correspond à ses pensées et à ses croyances personnelles. Ce livre, vous l'avez peut-être deviné, c'est la Bible. Savez-vous que si l'on acceptait l'instruction biblique dans toute sa merveilleuse simplicité, nous n'aurions pas toutes ces religions chrétiennes qui diffèrent tellement par leur enseignement? L'apôtre Jean a écrit: celui qui garde sa parole, celui qui garde l'enseignement qui a été donné par le Christ, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Par conséquent, celui qui affirme être chrétien doit marcher, il doit vivre comme le Christ a vécu lui-même, sinon il ne possède pas l'amour de Dieu. L'apôtre Paul savait qui il devait suivre et imiter, puisqu'il n'hésita pas à écrire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Bien qu'il soit persuadé que la Bible est la parole inspirée de Dieu, des millions de gens l'interprètent selon leurs croyances, voulant y découvrir la confirmation des convictions qui leur ont été inculquées depuis leur enfance. Si leurs grands-parents, de même que leurs parents, se sont conformés à une croyance, si des générations ont suivi une religion, une église qu'on appelle chrétienne, il leur est facile de conclure que tant de personnes ne peuvent pas être dans l'erreur. C'est si confortable de suivre la majorité. Cette explication simpliste fait abstraction des pays qui se laissèrent entraîner dans des idées saugrenues. Elles les entraînèrent dans la ruine et dans l'horreur. Je me permets de citer l'exemple de l'Allemagne qui, dès 1932, se laissa entraîner dans des doctrines nazies qui finirent par aboutir à la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce que suppose la grande majorité de ceux qui pensent être chrétiens, mais qui n'ont jamais pris la peine de vérifier la validité de leurs croyances. Ils oublient ainsi que, durant des siècles, la plupart des gens étaient analphabètes, seuls quelques privilégiés avaient la possibilité d'apprendre à lire et à écrire. Et il fallut attendre l'invention de l'imprimerie pour que la Bible puisse être mise à la disposition de tous, malgré l'opposition qui ne tarda pas à se manifester. Une opposition qui ne voulait pas que les gens découvrent que la parole de Dieu s'opposait à l'enseignement répandu à l'époque, tout autant qu'à celui que nous entendons de nos jours. Aujourd'hui, on peut trouver la Bible dans presque toutes les librairies. Beaucoup d'hôtels en ont fait un livre de chevet. Malheureusement, rares sont ceux qui prennent la peine d'examiner dans les Écritures, dans cette parole inspirée par le Dieu vivant, si les croyances qui leur ont été enseignées dès leur enfance sont bien exactes. Je ne prendrai pour le moment qu'un seul exemple. On affirme avec conviction que, si le Christ parlait en parabole, c'était pour permettre aux gens de mieux le comprendre. Or, dans son évangile, l'apôtre Marc confirme que le Christ, lorsqu'il fut en particulier, autrement dit, lorsqu'il se fut écarté de la foule et se trouva en privé, répondit aux disciples qui l'interrogeaient au sujet des paraboles, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Lisez aussi tout le 13e chapitre de l'évangile de Matthieu. Certains ne veulent pas croire ce passage, mais voulez-vous mettre en doute les paroles de Jésus-Christ? Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi? Oui, pourquoi, après avoir rempli son ministère pendant 3 ans et demi, après avoir parlé si souvent à la foule et accompli tant de miracles qui l'émerveillaient, il n'y eut que 120 personnes, 120 fidèles seulement assemblés le jour de la Pentecôte, alors que c'est au cours de ce jour-là que le Christ bâtit son Église. Pourquoi ce nombre si dérisoire après le ministère du Christ sur terre? Si Jésus l'avait voulu, n'aurait-il pu ouvrir le cœur de tous ces gens à la vérité? Il est certain que la réponse est affirmative, mais il ne le fit pas. Vous en êtes-vous déjà demandé la raison? Rares sont ceux qui se rendent compte aujourd'hui que la présente époque n'est pas la seule époque de salut. Pour le moment, Dieu n'appelle pas à lui la vaste majorité des gens. Il n'appelle qu'un petit troupeau. Le Christ s'est toujours référé à son petit troupeau, qui n'est composé que de ceux qui veulent vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de tous ceux qui mettent en pratique les commandements, comme Jésus l'a demandé. J'aurai l'occasion de vous parler de tout cela en détail lors des émissions qui suivront. Vous devez comprendre que la parole de Dieu a été écrite comme un puzzle. Il est nécessaire d'assembler tous les versets qui traitent d'un même sujet pour découvrir la vérité. Le prophète Ésaïe a écrit « À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » Tous les passages qui se rapportent à un même sujet doivent être rassemblés, examinés ensemble et dans leur contexte pour découvrir la vérité sur ce sujet. Pourquoi est-ce nécessaire? Parce que Dieu n'a pas prévu de révéler sa vérité à tous au cours de la présente époque. Cependant, tous auront leur chance de salut. Un jour viendra où tous pourront comprendre, même ceux qui sont morts depuis longtemps. Voilà le grand plan de salut qui nous est révélé dans la parole de Dieu. Parmi toutes les générations qui nous ont précédés, jusqu'à la nôtre, combien pleurent ou ont pleuré leur mort et ont tremblé pour le sort de leurs êtres chers, de leurs parents, de leurs conjoints, de leurs enfants. Ils se sont tourmentés sur leur sort et se sont demandé ce qu'ils sont devenus. Sont-ils dans les tourments d'un feu éternel, dans des souffrances indescriptibles pour l'éternité? La grande majorité de ces morts n'ont jamais connu la vérité, alors le doute plane quant à leur sort. Cependant, la Bible donne une réponse claire et précise à leur sujet. C'est ce que j'ai l'intention de vous démontrer au cours des émissions qui suivront. Surtout, ne me croyez pas, ne croyez personne, ne faites confiance qu'en la parole de Dieu, elle seule est la vérité comme le Christ l'a confirmé. Nous tenons gratuitement à votre disposition toutes les références bibliques qui vous permettront de vérifier dans votre Bible tout ce qui sera affirmé au cours de ces émissions. Ce n'est qu'ainsi que la vérité vous affranchira, comme Jésus le déclare. Si vous demeurez dans ma parole, dans mon enseignement, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Au fur et à mesure que vous connaîtrez la vérité, mais celle qui est révélée dans les Saintes Écritures, une vérité qui ne sera pas tronquée par les hommes, alors votre cœur sera content et joyeux, surtout lorsque cette vérité unique vous aura permis de découvrir le grand plan divin pour toute l'humanité. La Bible est le manuel d'instruction du Créateur pour tous. Certains estiment perdre leur temps en lisant l'Ancien Testament. D'autres ne lisent que les écrits de Paul. Mais si vous voulez connaître la vérité, il faut absolument la lire depuis la première page jusqu'à la dernière. Ne lire qu'une partie de la Bible, c'est comme si l'on voulait apprendre à écrire sans connaître toutes les lettres de l'alphabet. D'ailleurs, l'apôtre Paul a confirmé « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. » Selon le texte original, « afin qu'il soit complété, perfectionné. » Et qu'il soit propre, c'est-à-dire équipé, prêt, totalement pourvu, à toute bonne œuvre. Lorsqu'il fait mention de toute écriture, il est certain que l'apôtre Paul inclut aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau, les deux étant indispensables pour comprendre la parole de Dieu. À l'époque où l'apôtre Paul écrit cette seconde lettre à Timothée, ses épîtres n'avaient pas encore rejoint le canon des Écritures. Et celles des apôtres Pierre et Jean n'avaient pas encore été rédigées. Les seules écritures qui existaient à ce moment-là étaient l'Ancien Testament. Paul confirme qu'elles sont aussi utiles que toutes les autres écritures qui seront incorporées plus tard dans le Nouveau Testament. Si le monde qui croit être chrétien prenait la peine d'étudier l'Ancien Testament en relation avec le Nouveau Testament, alors beaucoup de choses deviendraient claires. Si on retenait toute écriture, la grande confusion religieuse qui s'est répandue dans le monde chrétien disparaîtrait. Certains érudits affirment que le récit de la Genèse, la création de l'homme, le déluge ne sont que légendes. Mais il ne faut pas oublier que le Christ lui-même a mentionné l'époque du déluge et à diverses reprises, l'apôtre Paul fait mention d'Adam. Si donc le livre de la Genèse est en partie un récit légendaire, ne pensez-vous pas que l'on serait en droit de se demander où finit la légende et où commence la vérité? En priant son Père en faveur de ses disciples, quelques heures avant son arrestation, Jésus déclara « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jésus, le Christ, était Dieu. L'apôtre Jean écrit de lui « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Si le Christ qui est Dieu s'est trompé au point de prendre des vessies pour des lanternes, s'il nous a induits en erreur, en voulant nous faire croire à des fables, à des mythes, faut-il encore vouloir devenir ou rester chrétien? Quelle confiance pouvons-nous alors accorder à ses paroles? Devrions-nous croire au salut et à sa résurrection qui eut lieu, selon le récit biblique, 3 jours et 3 nuits après sa mort? Mais rassurez-vous, le Christ est Dieu. Il ne peut mentir et la parole de Dieu, toute sa parole est et restera la vérité. Cette vérité, même si elle est souvent transformée, modifiée par de nombreux prédicateurs, ne périra jamais. Elle ne peut être anéantie comme le confirme le Christ, en déclarant aux Juifs de son époque qu'il l'accusait de blasphème. N'est-il pas écrit dans votre loi, « J'ai dit, vous êtes des dieux ». Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites « tu blasphèmes ». Peu de temps avant son arrestation, Jésus déclara à ses disciples « le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». De son côté, le prophète Ésaïe a écrit « l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement ». L'apôtre Pierre, à son tour, a écrit « l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Alors, pourquoi ne vous mettriez-vous pas à la lecture de la Bible, depuis la première page jusqu'à la dernière? C'est alors que la vérité vous affranchira, et vous saurez si oui ou non vous êtes dans la vérité, si vous vivez conformément à la volonté de Dieu, si l'amour de Dieu est en vous. Tous, nous devons apprendre que Dieu est réel, il est vivant, il intervient dans les affaires du monde, afin que son grand plan pour tous les hommes s'accomplisse. La plupart des gens prétendent croire en lui. Ils se trompent, car ils ignorent presque tout de lui. Mais Dieu deviendra réel pour eux s'ils le cherchent en lisant toute sa parole et en la laissant s'interpréter d'elle-même.